pas lu les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, enquête sur les formations d'ingénieurs en Afrique. Il manque 2,5 millions d'ingénieurs sur le continent pour son développement économique. Mais les facultés de lettres et sciences humaines continuent d'accueillir les plus gros contingents sur les campus. Le problème, c'est que les formations d'ingénieurs proposées sur le continent sont souvent théoriques, pas assez tournées vers les entreprises, faute de moyens financiers dans les équipements. En Afrique centrale, certaines écoles tentent de proposer une formation de qualité, souvent coûteuses et en lien avec les entreprises multinationales qui sont implantées sur place, la plupart dans le pétrole. C'est le cas de l'Institut catholique des arts et métiers, une école française qui vient d'ouvrir un nouveau campus sur son site de Pointe-Noire, tout près du groupe Total. Alors comment ces formations peuvent profiter aux pays dans lesquels elles sont dispensées, sans servir uniquement les intérêts des multinationales qui évidemment misent désormais sur des ingénieurs made in Africa pour minimiser leurs coûts. Et puis de leur côté, à quoi rêvent ces jeunes futurs ingénieurs? Reportage au Cameroun à Douala et à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville de Charlie Dupiot.
Les voisins, c'est comme une seconde famille.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Et la planète se part.
Bonjour Charlie Dupiot.
Bonjour.
Pour mieux comprendre le problème de la pénurie d'ingénieurs, vous êtes rendu dans une PME congolaise à Pointe-Noire.
Oui, la ville qui suinte le pétrole et qui vit au rythme de Total, entre autres. Sont également présents Eni, Perenco et d'autres géants dans le domaine. Alors de nombreuses PME sont aussi implantées à Pointe-Noire. Certaines sont rattachées au monde pétrolier, mais pas seulement. En tout, il y en a 4200, toutes tailles confondues, dans le département de Kwilu, qui comprend Pointe-Noire et sa région. Je suis allée toquer à la porte de l'une d'entre elles, DE Network, une PME congolaise dans l'informatique. Son fondateur, Deschagrin Ebé, a volontairement choisi de s'implanter à Ngoyo, un quartier excentré au sud de Pointe-Noire, loin des sièges sociaux des multinationales.
Donc dans ces bureaux, vous avez des techniciens, informaticiens, un réseau, télécom, des formateurs électroniciens également.
Dans la partie informatique, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est la vente du matériel informatique. Donc ça peut être les ordinateurs, les imprimantes, les onduleurs, le matériel de sécurité et tout. Et puis on assure la maintenance des équipements vendus.
Et qui sont vos clients?
Alors nos clients ici, on a les pétroliers, les parapétroliers et les particuliers également. Et là, je vais vous amener dans notre atelier de dépannage électronique. Voilà, à l'intérieur, vous entrez, vous regardez, qu'il y a beaucoup de machines en réparation.
Combien de personnes vous employez ici?
On était 35 l'année passée. Ben avec la situation économique que vous connaissez, là, nous sommes à 20.
La crise qu'a connue le Congo-Brazzaville, notamment avec la chute du cours du pétrole, qui est aujourd'hui autour de 60 dollars le baril. Et en fait, ici, vous avez besoin, évidemment, de personnel formé, d'ingénieurs.
Alors, on a besoin de personnes formées, d'ingénieurs. Mais c'est très difficile. Moi, je suis ingénieur informaticien à la base. J'ai travaillé. Après, je me suis mis à mon compte en 2009. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à recruter parce que le titre ingénieur est en train de perdre son sens aujourd'hui. Vous savez que chaque fois que j'ai reçu des dossiers ici pour des gens qui étaient ingénieurs, j'étais très content. Je me dis, voilà, on va avoir des gens sur lesquels on peut se reposer et tout. Mais tout le monde s'est dit ingénieur. Après, ingénieur informaticien, c'est général. Vous voyez, vous trouvez des gens qui sont ingénieurs informaticiens sur le terrain, ils ne valent vraiment rien.
Et concrètement, comment ça s'explique?
Il y a beaucoup de jeunes qui sont formés pour chômer. Parce qu'ils ne sont pas bien formés, parce que nous, au Congo, vous avez des gens qui ont terminé leur cursus ici, dans de nombreuses écoles privées. Il en pleut chaque jour ici, comme les églises. Parce qu'aujourd'hui, les écoles, c'est quoi? Chacun va avoir une petite maison comme ça, trois chambres salon, voilà, c'est une école. Institut parfois même. C'est incroyable, hein? Ce sont des écoles privées qui coûtent, ça peut être 100 euros par mois ou plus, avec ce qui va avec. On manque de la main-d'œuvre qualifiée dans tous les niveaux. Et ça, ça part de la formation. Ça me fatigue parce que je travaille trop. J'arrive pas à déléguer. Aujourd'hui, il pleut des BTS. Hein. On a beaucoup de BTS en maintenance informatique bidon. Et ça, ça fait mal. S'il n'y a pas de matériel pour les travaux pratiques, si les formations restent théoriques, si les formateurs ne sont pas assermentés, à la fin, on ne fait rien. On reçoit des stagiaires en permanence ici qui sont en train de travailler. Vous avez M. Mbaki qui, à la base, c'est quoi la formation de base, Mbaki?
Moi, je suis diplômé en BTS. télécommunications et réseaux, dans une école qu'on appelle Institut supérieur de technologie de la Martinière, à Pointe-Noire. Il est de mon devoir de savoir configurer un routeur, par exemple, un point d'accès, chose que j'ai fait théoriquement à l'école, mais en pratique, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de faire ça, d'appliquer cette pratique-là.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'équipement ?
Parce qu'il n'y avait pas d'équipement,
voilà. Donc vous n'aviez jamais touché de routeur, par exemple ?
Non, à l'école, non.
Pourtant, je ne m'y connais pas trop en informatique, mais c'est important, les routeurs, j'imagine.
Un routeur, il fait la passerelle entre votre réseau privé et l'extérieur.
Combien de temps durait votre formation ?
2 ans. Les formateurs se focalisent beaucoup plus sur la théorie, parce qu'il n'y a pas d'équipement. Word, Excel, PowerPoint, donc ça, c'est la base. C'est un peu tout ça que je peux dire comme pratique. Mais sinon, je n'ai pas vraiment eu l'occasion à l'école de me présenter devant un routeur comme ça, d'attaquer un routeur, de configurer, d'installer. Mais ça, c'est ici que j'ai appris ça.
Combien vous avez dû payer cette formation ?
750 000 francs CFA.
Donc au total, un peu plus de 1100 euros. C'est cher quand même pour une formation qui n'apprend pas grand-chose.
Évidemment, c'est cher. Là, je suis en stage. Pour une année, chaque samedi, nous avons des formations ici. C'est pour nous mettre à niveau, en fait.
C'est ici, dans l'entreprise ?
Oui, ici, en local.
Depuis l'année passée, on est sur un budget de 15 millions, près de 23 000 euros, d'investissement en formation, en interne, sur fonds propres, sur 2 ans, pour une formation de 12 techniciens. 15 millions de CFA, c'est beaucoup d'argent pour une entreprise comme la nôtre. Cet argent, on aurait pu investir dans autre chose. On se rend compte qu'à défaut de chercher la perle rare, on va former la perle rare. Vous êtes obligé de le faire, mais avec aucune garantie que cette perle rare reste. Et du jour au lendemain, un grand groupe comme Total, il vient, c'est sans votre permission. Et je ne forme pas pour les autres. J'ai déjà eu des Camerounais, j'ai déjà eu des Indiens, j'ai même eu des Français dans l'équipe. Le salarié congolais ici, le moins cher, il va vous coûter, tout compris, 350 000 francs mois.
500 euros.
Voilà. Vous prenez un Indien, par exemple, il va vous coûter 1,5 million le mois, par là. Vous prenez un Camerounais, il va vous coûter 600 000, 500 000.
Donc 2000 euros par mois pour un salarié indien, voilà. 1000 euros pour un salarié camerounais. Mmh.
C'est toujours avantageux de prendre quelqu'un de local parce qu'il est au Congo, à Pointe-Noire, il vit chez lui. Pas de loyer à payer pour lui. Donc la différence peut être très énorme. L'objectif pour nous, c'est de congoliser les postes. Mais la congolisation a un coût. La plupart des projets d'industrialisation ici sont tenus par des étrangers. Parce qu'à un moment, on a un sérieux problème des compétences. Si nous voulons vraiment qu'à l'avenir, qu'on industrialise nos pays, il faudrait que l'Afrique commence à mettre en place des écoles aux standards internationaux. Il faut plus d'ingénieurs dans tous les domaines. Il en faudra beaucoup.
On l'a compris, Charlie Dupiot, les formations d'ingénieurs de qualité sont rares dans la sous-région en Afrique centrale.
Oui, et une école d'ingénieurs française a voulu y remédier. Cette école, c'est l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers. Une école créée à Lille il y a plus de 120 ans et qui compte 6 sites en France. En 2002, elle a aussi ouvert 2 campus en Afrique centrale, l'un à Douala, l'autre à Pointe-Noire, à la demande notamment de Total, qui souhaitait recruter de la main-d'œuvre locale et qualifiée. Alors l'ICAM est en partenariat avec l'UCAC, l'Université catholique d'Afrique centrale, basée à Yaoundé. Les étudiants passent en fait 2 ans à Pointe-Noire pour obtenir un BTS en maintenance industrielle. Et puis ceux qui veulent poursuivre le cycle ingénieur généraliste passent 3 ans à Douala, dont 2 en apprentissage. Alors j'ai rencontré 2 étudiants qui sont actuellement en 5e année. Thalès, camerounais, qui est en apprentissage chez Perenco, entreprise pétrolière à Douala. Et Nathan, congolais, en apprentissage, lui, chez Schlumberger, dans les services pétroliers. Ce sont ceux qui forent et puis qui puisent le pétrole.
J'ai jamais su vraiment c'était quoi un ingénieur. On m'a toujours dit qu'un ingénieur, c'est comme un super-héros, mais en vrai. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours la solution à tous les problèmes. Donc quand on les voit avec un torse bombé, avec un gros S sur la poitrine comme Superman, et de derrière, on les voit avec une cape rouge.
C'est ça l'image que vous aviez de l'ingénieur.
Tout à fait.
Et alors vous, du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir ingénieur ?
Je me suis vu un peu comme il a dit, le super-héros. Partout où il y a des problèmes, l'ingénieur est appelé. On sait qu'en Afrique, il y a des problèmes. Donc c'est vraiment ça, le but de pouvoir mettre au service la formation des ingénieurs à l'Afrique et surtout au Cameroun, qui m'a poussé à devenir ingénieur.
Nous, notre formation n'est pas axée en fait sur le pétrole. On est généraliste, c'est-à-dire qu'on peut faire en fait beaucoup de trucs dans le domaine de l'industrie. On peut faire de l'électricité, de la mécanique, de l'automatisme, on peut même faire de la gestion et même de l'économie parce qu'il y a des gens chez nous qui sont dans des banques, il y a de ceux qui sont dans des assurances, dans des pharmacies.
Et pourquoi vous avez choisi alors le pétrole pour votre apprentissage notamment ?
Chez nous, au Congo-Brazzaville, c'est tout d'abord pour ta famille. Ta réussite, c'est quoi ? C'est être par exemple dans une entreprise, une grande entreprise pétrolière. On entend dire que le salaire est énorme, du coup ça donne envie quoi.
J'aime bien en fait le défi que propose la formation scientifique. C'est comprendre les choses et les expliquer. Quand on voit une fleur qui penche, une qui casse, une qui ne casse pas, l'eau, pourquoi c'est liquide et la table est solide. La science nous permet d'expliquer ce genre de choses. J'ai fait orientation seconde C, première C et terminale C.
Donc scientifique.
Voilà. Je ne vais pas dire que je suis allé vers le secteur pétrolier, mais c'est lui qui est venu vers moi. Après 2 ans de formation à Pointe-Noire, je sors major de l'examen du diplôme du BTS et l'entreprise Perenco Cameroun prend en entretien juste les 10 premiers en fait. Donc du coup, je me retrouve, même sans avoir postulé, en entretien pour Perenco Cameroun.
On dit que les écoles d'ingénieurs sur le continent africain permettent aussi d'éviter la fuite des cerveaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Bon, je n'ai pas vraiment envisagé aller à l'étranger. Le problème, c'est que ceux qui quittent l'Afrique, ils se disent en fait qu'en Afrique, il n'y a pas une assez bonne qualité de formation, mais ils ne reviennent pas en Afrique. Parce que lorsqu'on est parti, on a souvent tendance à y rester. Moi, je préfère en fait être formé en Afrique parce que je suis proche des réalités de l'Afrique. L'avenir se dessine déjà dès maintenant parce qu'il y a 5 ans, lorsque j'ai le concours à l'Institut Kakikam, il y a des écoles d'ingénieurs ou des filières d'ingénieurs qui n'existaient pas encore au Cameroun. Donc dans le laps de temps de 5 ans, on a déjà vu plus de 10 écoles et, ou de 10 formations d'ingénieurs qui sont sorties, ce qui montre la propension de l'Africain à vouloir entrer dans le domaine de l'ingénierie, de vouloir créer, de vouloir mettre à disposition son intelligence pour le développement.
Tous les deux, vous parlez, à la fois pour le Congo-Brazzaville et pour le Cameroun, de servir votre pays comme ingénieur. Mais alors justement, est-ce que travailler pour des entreprises comme Schlumberger ou Perenco, qui sont deux grandes multinationales pétrolières, est-ce que c'est vraiment servir votre pays?
Par exemple, moi, je suis en apprentissage pour une société de service aussi, parce que Schlumberger est venu à l'école, ils ont fait un test et ils ont pris ceux qui ont validé le test. Cette société, elle rapporte aussi une partie de son bénéfice à mon pays, au Congo-Brazzaville. Donc du coup, si je travaille bien là-bas, je suis comme un ambassadeur pour mes frères congolais dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et du coup, travailler pour cette entreprise multinationale, ça réduit un peu le taux en fait, d'abord d'expatriation de gens qui viennent par exemple d'autres pays pour travailler chez nous. Par exemple, il va dire, ok, Nathan il travaille bien, donc du coup, je veux un autre Nathan. Du coup, ça aide les jeunes de chez nous à trouver du boulot. Du coup, je suis un exemple à suivre en fait. Je suis un modèle, je suis le super-héros.
Aujourd'hui, si on regarde l'Afrique, ils sont de grands exportateurs de matières premières et de grands importateurs de produits finis. Pourquoi l'Afrique ou le Cameroun ne peut pas transformer lui-même sa matière première? C'est un problème technologique en fait. Mais si je travaille à Perenco Cameroun pour l'extraction pétrolière et pour une entreprise qui est franco-britannique, ça n'exclut pas que je puisse être entrepreneur dans mon propre pays et développer des structures qui aideront dans l'agriculture et surtout dans les infrastructures.
Qu'est-ce que vous espérez tous les deux pour votre avenir à vous, par exemple dans 10 ans?
Je me vois manager chez Schlumberger dans plusieurs pays d'Afrique.
Dans 10 ans, je me vois peut-être pas propriétaire, mais au moins actionnaire à plus de 50% d'une entreprise qui ferait dans les besoins de première nécessité au Cameroun. Par exemple, mécanisation de l'agriculture. Sans ambition, on n'arrive pas loin.
Alors restons concrets, Charlie, quel salaire à la sortie de l'ICAM quand on est embauché chez Total? C'est ça qui intéresse nos auditeurs.
Effectivement, alors 3 500 € par mois en tant qu'ingénieur. Alors ce sont surtout donc, les entreprises pétrolières qui acceptent des apprentis en alternance avec leurs études. Et ces entreprises payent la formation de l'étudiant près de 2 800 € par an pendant 2 ans. Le reste du temps, les élèves étudient sur le campus de Yansoki à Douala, à l'écart du centre-ville. Voici un coup de mécanique des structures pour les 5e années. Attention, c'est technique.
Où nous commençons là sur la dernière partie ici, en fait, c'est les équations de Lagrange, qu'on appelle encore couramment le Lagrangien. Donc, on observe ici l'équation de mouvement par la formule suivante, F égale à M fois A, avec F égale à K fois X égale à M fois X point point. Donc, nous avons maintenant moins 1 demi de K X carré. Donc, maintenant, je vous laisse donc chacun de faire cette dérivée-là en obéissant à la formule de Lagrangien qui est au tableau.
Solange Tienche, vous êtes étudiante là, vous assistez à ce cours de mécanique. C'est une matière qui vous plaît, la mécanique?
Ce qui est abstrait, en général, ça ne me tente pas beaucoup. Moi, j'étais plus axée dans quelque chose de pratique. J'aime manipuler, j'aime toucher, j'aime ressentir de façon directe les choses.
Là, c'est un cours de 5e année, donc vous êtes bientôt diplômée.
Je vais prendre mon diplôme là en juillet. Donc, je suis en apprentissage au laboratoire Biopharma. Je suis dans la maintenance industrielle. Biopharma, c'est une entreprise de cosmétiques 100% camerounaise. Les produits de beauté, les laits, les savons, les gels douche, les parfums, tout ça. Ce sont des produits propres aux Africains, par exemple aux cheveux crépus, à la peau noire, vendus ici en Afrique.
Vous êtes camerounaise?
Oui, je suis camerounaise et j'ai grandi ici à Douala. Avant de rejoindre l'ICAM, j'étais tout simplement au collège Liberman.
C'est un collège privé catholique. Alors j'ai fait un bac C, un bac scientifique. Ici à l'ICAM, ça coûte près de 2000 euros, voire plus, par année. Pour que j'étudie toujours dans une très bonne école, mon père, il a fait justement ce sacrifice-là.
Quel travail fait votre père ?
Mon père, lui, il est comptable, consultant. Ma mère est assistante de direction. En fait, moi, mon objectif, c'était tout simplement d'être ingénieur. Je suis entrée à l'Institut UKIKAM qui forme des ingénieurs généralistes et qui me donne cette capacité-là de pouvoir m'adapter partout où j'irai. Donc, tout ce que j'apprends là, je vais l'appliquer directement dans mon projet, dans l'agriculture, depuis la production jusqu'à la transformation en jus de fruits. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas forcément ce qui vient de l'autre côté qui est de bonne qualité. Nous-mêmes, sur place, en Afrique, on peut faire de bonnes choses et de bonne qualité. Du coup, c'est très important pour moi.
Transformer, produire localement, c'est l'ambition partagée de nombreux étudiants dans ces formations. Charlie, vous êtes aussi allé visiter une autre formation à Douala.
Oui, privée, elle aussi. C'est celle proposée par l'Institut universitaire de la Côte, dans le quartier de Locbessou, au nord-est de la capitale économique.
Marie-Lorraine, 18 ans, est en troisième année d'ingénierie. Elle a eu son bac à 16 ans. Oula.
Ici, nous sommes au laboratoire de fabrication mécanique où généralement on travaille sur tout ce qui est mécanique, tout ce qui est fabrication. On nous donne des pièces parce que tout ingénieur doit aussi savoir comment fabriquer les pièces mécaniques. Ici, vous pouvez voir, c'est une perceuse à colonne. Et de ce côté, on a beaucoup plus des tours parallèles.
Là, c'est une machine très imposante hein, qui fait presque notre taille et qui est longue d'au moins 2 mètres.
Ici, on peut faire plusieurs actions. Comme j'ai dit, on peut charrioter, chanfreiner, percer, dresser aussi. Dresser qui consiste à réduire la masse d'une pièce. On fabrique des pièces de véhicules, des vis.
Et tout ça, vous avez appris à le faire ici, en formation ?
Exactement, nous avons appris à faire ça depuis la première année. Donc, il est impératif de venir dans ce labo, toujours bien vêtu. C'est-à-dire qu'il faut être muni d'un casque, d'une chemise bleue et des chaussures de sécurité.
Vous, ça vous plaît ces heures-là pratiques passées dans ce laboratoire ?
Oui, contrairement à lorsqu'on commençait en première année, beaucoup se disaient que nous les filles, on ne devait pas trop aimer cette matière. Mais moi personnellement, j'aime beaucoup, surtout la pratique.
Vous êtes combien de femmes dans la promotion ?
Sur 22 étudiants, nous sommes 6 filles, 6 femmes juste.
Donc moins d'un tiers.
Oui, exactement. Ça a été difficile durant les débuts parce que lorsque tu viens, toi étant femme, lorsqu'on a commencé à faire des cours de fabrication mécanique, par exemple sur le tour parallèle, il y a beaucoup d'opérations à faire et ces opérations appellent un peu de la force. Parce que lorsqu'on usine sur cette machine, il faut utiliser des clés, il faut tourner le mandrin, il faut serrer les vis et tout. Et si ton serrage n'est pas parfait, c'est clair que ta pièce ne va pas être usinée de manière précise en fait. Vu toutes ces opérations qui appelaient de la force, on était un peu très stigmatisés par nos camarades en fait.
C'est des camarades garçons qui disaient ça ?
Oui, bien sûr, les camarades de la promotion. Mais hormis ça, je dirais que lorsque j'ai fait mon stage en entreprise en première année, j'ai vraiment eu du mal. Ils étaient prestataires électroniques, c'est-à-dire qu'ils installaient des appareils électroniques dans des maisons chez des particuliers. Et lorsqu'on allait, on sortait pour aller faire des installations, j'étais un peu très, très mise de côté. Non, on ne touche pas ça, ce sont les hommes ici, tu n'as pas la force de tourner ça, ne touche pas la clé, ne touche pas, vous voyez un peu quoi, ne touche pas la vis, ça va te frapper, ce genre de trucs.
Donc, c'est vos collègues qui disaient ça?
Ouais, donc les collègues de stage et tout, ce n'était pas très évident à travers, de s'intégrer en tant que femme. Parce que j'ai fait un mois de stage là-bas.
Vous étiez la seule femme?
Il y avait à peu près 6 stagiaires et la plupart du personnel technique était des hommes. Donc lorsqu'on partait faire des installations, je me retrouvais la seule femme parmi plein d'hommes. Les deux premières semaines étaient difficiles. Tu passes ton temps aussi à rester derrière et à écouter ce qu'on te dit, c'est-à-dire touche pas à ça et que tu touches pas, tu vas pas apprendre. Lorsque j'ai fait mon deuxième stage en deuxième année, de prime abord, lorsque je suis arrivée, je n'ai pas directement essayé de jouer la femme forte ou bien la femme ingénieure qui maîtrise tout. Non, j'ai essayé d'abord de mieux connaître le personnel, mieux connaître comment ça se passe, les différentes techniques et tout et tout. Et après, essayer d'apporter du mien aussi, essayer de partager avec les autres ce que j'ai eu à apprendre et tout et tout. Donc ça n'a pas été trop difficile la deuxième fois parce que j'avais déjà une idée de comment ça se passe lorsque tu es femme et que tu arrives dans ce domaine-là. Si on te stigmatise, c'est très souvent parce qu'on se dit que tu ne connais pas. Donc, il est très, très important d'essayer de montrer, en fait, que tu maîtrises, en fait. Comme je dis souvent, l'homme doit prouver, mais la femme doit prouver deux fois plus. Et moi, principalement, j'aimerais continuer dans la mécanique des structures, des matériaux. Parce qu'au Cameroun, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup, mais énormément de déchets qui arpentent nos rues. Et ces déchets-là peuvent avoir une seconde vie, comme les téléphones, les tablettes, etc. Donc j'ai envie d'utiliser ces matériaux-là afin d'en créer d'autres téléphones, par exemple. On peut bien utiliser le métal pour créer autre chose. Mais quand tu es motivé, quelque chose que les gens te diront, tu vas foncer. Donc, en tant que femme, je suis extrêmement fière de faire l'ingénierie et je compte vraiment ne pas m'arrêter là. Je compte aller loin.
Moi, c'est Jocelyne Makouassime, étudiante en 5e année, ingénierie 3IL de Limoges, France, ainsi que délocalisée au Cameroun, ici à l'Institut Universitaire de la Côte. De ce côté, bon, le laboratoire d'informatique.
Et dans les salles de cours, on voit quand même plus des garçons pour l'instant.
Dans notre promotion, nous sommes au total 28 et nous sommes 9 filles. Ce n'est pas seulement l'homme qui peut travailler dans ce domaine. La femme aussi peut intégrer tous les domaines. À la base, j'aimais l'informatique parce que j'aimais d'abord les mathématiques. Et qui dit informaticien dit mathématiques. Depuis le collège, j'étais généralement parmi les premiers de la classe.
Vous avez passé un bac scientifique ?
Oui, j'ai un bac scientifique que j'ai reçu. En mathématiques, j'avais eu 16,5 et en physique, j'avais eu 19. J'ai intégré les classes préparatoires sur concours parce que nous entrons ici par concours. Quand on entre par concours, on commence par les classes préparatoires de 2 ans. Et en 5e année, comme module, moi, je fais technologie, c'est-à-dire le développement de langage web et mobile. Et en plus de cela, le réseau mobile. Plus tard, j'aimerais intégrer une entreprise multi-internationale, par exemple comme Orange Cameroun.
Et ces études coûtent cher ?
Chaque année en classe préparatoire, c'est 800 000. Et de la troisième en 5e année, c'est-à-dire le cursus ingénieur, c'est 1 500 000 par année.
1 500 000 francs CFA. Alors vous qui êtes bonne en maths, combien ça fait en euros ?
2 200 euros environ.
Comment vous faites, vous, pour payer ces études-là ?
Mes parents payent. Et aussi parce que j'ai eu cet avantage, je suis avant-dernier né de la famille. Donc j'ai les aînés qui travaillent déjà, j'ai mes parents qui travaillent, mon papa est déjà en retraite. Chez nous, en famille, je suis la seule qui a voulu faire l'ingénierie informatique. Ici déjà, nous tous, on a chacun un ordinateur personnel. C'est notre équipement de travail en fait.
Ça veut dire qu'il faut quand même un certain niveau de revenus pour pouvoir être étudiant ici.
Ah, voilà, il y a aussi tout ça. Il faut être en mesure de payer les certifications.
Les certifications, c'est-à-dire ?
Ce sont des modules. Donc pour augmenter, pour booster le CV, pour pouvoir montrer, attester, faire une différence avec les autres, que en plus de mon diplôme que j'ai eu, j'ai une certification dans tel domaine bien précis. C'est un test international, c'est pas ici qu'on le fait, on le fait dans les structures internationales.
Et ça coûte combien une certification comme ça ?
En moyenne 300 euros, même 800 euros, même 1000 euros.
En plus du coût des études ?
En plus du coût des études. Parfois on a la possibilité de pouvoir payer des cours de prépa pour préparer la certification. On le fait aussi, c'est toujours un coût. Par exemple, dans mon domaine, on peut avoir environ 12 certifications.
Ça veut dire que le diplôme ne suffit pas, en fait. Il faut aussi des certifications.
Si, ça peut suffire, mais les certifications, c'est pour se différencier. Donc, ça garantit parfois le travail. L'école, c'est de l'argent, en fait.
Ces certifications en informatique, Charlie, sont dispensées par des instituts internationaux, c'est bien ça ?
Oui, comme l'organisme américain Cisco qui fait passer des tests et qui donne des certifications de compétences. Alors les prépas dont parle Jocelyne peuvent coûter près de 300 euros pour 3 mois chacune.
Au Cameroun, 5% des étudiants seulement s'orientent vers les filières d'ingénieurs. Plus de 60% se destinent aux sciences sociales. Cherchez l'erreur. Au Cameroun et au Congo-Brazzaville, les formations aux métiers de technicien et d'ingénieur ne manquent pas. contrats, souvent privés, coûteuses, mais comment s'assurer de leur qualité? Comment ces formations peuvent profiter aussi aux PME locales, favoriser la diversification de l'économie, encore trop centrée sur le pétrole ou les ressources minières? Charlie Dupiot, vous avez enquêté, assisté à Pointe-Noire à l'inauguration du nouveau campus de l'Institut catholique des arts et métiers, une école d'ingénieurs française qui s'est implantée dans la sous-région il y a 16 ans. Mais le campus est tout nouveau.
Oui, exactement, avec deux grandes bannières rouges et blanches de Total à l'entrée, le ton est donné pour cette inauguration, avec des discours de plusieurs personnalités locales et même nationales, comme le ministre congolais de l'enseignement supérieur, également présent des évêques de Pointe-Noire notamment, ou encore le directeur général de Total EP Congo. Tous ici veulent croire en l'avenir.
Nous voulons apporter aux étudiants, étudiantes des deux campus, Douala et Pointe-Noire, une formation humaine et intellectuelle de qualité. Nous voulons des ingénieurs utiles à leur communauté. L'ingénieur qui sortira de cette école doit devenir le sel et la lumière pour l'Afrique. Je vous remercie.
Yolande Mumpala, les discours là s'enchaînent. Bientôt, le ministre de l'enseignement supérieur va couper le ruban qui est aux couleurs du drapeau congolais pour inaugurer ce site de l'ICAM qui est donc à Pointe-Noire, flambant neuf, dont vous êtes la directrice déléguée.
Oui. Alors, ce qu'il y a de neuf, ce sont juste les bâtiments. Parce que on est implanté au Congo, plus particulièrement aussi à Pointe-Noire depuis 2002. Et pendant donc plus de 15 ans, nous avons été gracieusement accueillis par Total EP Congo. Et nos premiers ingénieurs diplômés sont sortis depuis 2007.
Et on a un, deux, trois bâtiments?
Oui, trois bâtiments. Sur le site qui nous a été donné par le diocèse de Pointe-Noire, parce qu'à la base, il faut que les gens entendent qu'on est catholique. Et donc, le diocèse de Pointe-Noire nous a donné ce terrain-là pour que nous puissions construire. Et donc, il y avait ce premier bâtiment.
Ici, là, le bâtiment qu'on voit sur notre droite de 4 étages est un bâtiment pour les cours.
Pour les cours, TP, ateliers. Et les deux autres bâtiments, les chambres des étudiants. Comme nous recevons des jeunes qui viennent de la sous-région d'Afrique centrale, eh bien, nous avons fait l'engagement de les loger. Priorité est donnée aux Camerounais, aux Tchadiens, Centrafricains, Gabonais. Si on est venu effectivement en Afrique, c'est pour que ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller faire les études en France ou dans d'autres pays européens, eh bien qu'ils aient ici aussi sur place la même qualité. Du coup, pour eux, c'est véritablement une aubaine.
Et là, on voit cet ancien couvent qui rappelle aussi que l'ICAM, c'est un institut catholique. Quelle part est donnée à la religion dans l'enseignement ici?
On est, donc, comme l'avait dit, jésuite, donc nous appliquons la pédagogie ignatienne, qui est vraiment focalisée sur l'homme, sur son développement. Alors, la part, eh bien, c'est... Il n'y a pas de cours religieux, on ne dit pas la messe avant d'aller là en classe, on ne récite pas le Notre Père avant de commencer un cours. Catholique, je dirais que nous n'avons que deux noms, puisque nous recevons des musulmans, nous recevons des protestants, nous recevons les athées, pourquoi pas. Il n'y a pas de barrière.
Jean-Michel Viau, vous êtes le directeur général du groupe ICAM. Bonjour.
Bonjour.
Total investit 800 000 euros dans le budget de cette école. Une des questions qui se pose, c'est pour quelle contrepartie ?
Total investit pour la construction du campus. Donc c'est une fois. En fait, il n'y a pas de contrepartie. Total est partenaire de notre projet depuis l'origine. Il nous a accueillis gracieusement dans ses locaux pendant 15 ans presque. Du coup, pour nous, c'est un partenaire important à qui on demande régulièrement conseil. Ils sont du coup membres de notre conseil stratégique qui se réunit une fois par an ici à Pointe-Noire. Donc c'est un conseil qui compte, selon les années, entre 12 et 18 personnes autour de la table. Dans les décisions, s'il y a vote de décision, il a une voix.
Dans ce conseil stratégique, qu'est-ce qui peut se décider par exemple?
Sur les formations de techniciens par alternance ici à Pointe-Noire, il y a 4 ans, nous avons décidé de ramener cette formation qui était en alternance pendant 3 ans à une formation classique en 2 ans sans alternance. Une autre décision qui peut se prendre à ce conseil, c'est de construire ce campus ici.
Donc vous diriez totalement indépendant de Total?
Tout à fait. Depuis 12 ans que je suis directeur général ici, je n'ai pas un exemple où Total a fait preuve d'influence sur une décision concrète, opérationnelle ou stratégique. Donc ils n'agissent pas sur le recrutement des élèves, je vais être très précis, ils n'agissent pas sur le contenu des programmes, ils n'agissent pas sur le placement des élèves, ils nous laissent une totale autonomie de fonctionnement, de gestion, malgré leur aide importante. La dernière contribution de Total, c'était convenu avec eux, c'était cette dernière aide exceptionnelle pour le financement à hauteur à peu près d'un quart de la valeur de ce campus.
Comment s'assurer que cette formation, elle serve vraiment
aux Congolais.
C'est les jeunes que nous diplômons qui sont responsables des choix qu'ils font, du type d'entreprise dans lesquelles ils souhaitent démarrer leur carrière et ils souhaitent ensuite développer leur carrière.
Plus souvent dans des multinationales, quel que soit leur domaine, notamment dans la construction, dans l'équipement au Cameroun, que dans des entreprises, des PME locales en fait.
Oui, jusqu'à présent, mais c'est en train de changer depuis 3-4 ans. Et oui, de fait, comme on a mis en place un système par alternance qui implique beaucoup les entreprises, qui font que les entreprises contribuent financièrement à la formation des jeunes qu'elles supportent financièrement en payant les frais de scolarité. Du coup, forcément, pendant les premières années, en plus c'est un système très novateur ici en Afrique centrale, la question de l'apprentissage et de l'alternance, ça n'existait pas.
Et d'ailleurs, c'est compliqué de trouver effectivement des entreprises qui acceptent des apprentis.
C'est compliqué puisque ce n'est pas dans les usages. Et du coup, c'est vrai que pendant 10 ans, c'est vraiment les multinationales importantes qui, un, ont les moyens et la connaissance de ces dispositifs qui existent beaucoup en Europe, en Allemagne, en France, etc., qui ont été le moteur, la locomotive de notre développement. Mais c'est en train d'évoluer.
Alors, une autre question que je voulais aborder avec vous, c'est celle du coût. Le coût de cette scolarité, ici à l'ICAM, à Pointe-Noire, est assez élevé. Hein. Il s'agit environ de 2500 euros par an. Et de fait, ce sont surtout des étudiants qui sont de parents issus de la classe moyenne aisée, issus de lycées privés. Est-ce que l'ICAM, ici, est une école de l'élite ?
Non. Déjà, factuellement, on peut prendre chaque promotion et enfin, vous verrez qu'il y a des jeunes issus de familles très, très, très modestes. De fait, on a mis en place des dispositifs d'aide pour justement ne pas être une école réservée à ceux qui ont les moyens. Et pour certains élèves dont le prêt bancaire ne suffit pas, on octroie, nous, des prêts complémentaires. Et quand on voit que la famille n'a pas les moyens, on octroie des bourses.
Alors, des étudiants boursiers ou qui ont bénéficié d'un prêt bancaire pour leurs études, combien sont-ils réellement dans cette école à l'ICAM, Charlie ?
Alors, actuellement, sur les deux sites de l'ICAM, à Douala et à Pointe-Noire, 16 élèves bénéficient d'une bourse, toutes promotions confondues, sur donc à peu près 500 étudiants, c'est moins de 4%. Alors, pour les prêts bancaires, cela concerne un quart des étudiants dans la promotion qui sera diplômée en 2019. Mais l'ICAM n'a de toute façon pas besoin d'une vraie politique sociale puisqu'elle croule sous les demande d'étudiants solvables avec déjà 500 élèves sur ces deux campus, 200 à Pointe-Noire, 300 environ à Douala. Elle ambitionne d'accueillir jusqu'à 1 000 000 d'élèves d'ici 5 ans et elle va y parvenir hein, sur un marché d'écoles d'ingénieurs encore peu concurrencé et avec une classe moyenne qui a soif de réussite.
Et toute la question est de savoir que fait le ministère de l'enseignement supérieur au Congo-Brazzaville pour former des ingénieurs parce que c'est quand même aussi sa mission vu l'argent que procure le pétrole à l'État.
Alors sur ce sujet, j'ai interrogé le ministre Bruno Jean-Richard Itois qui préfère inaugurer un campus privé que de repenser une politique universitaire à la hauteur des besoins économiques du pays.
De façon générale, les pays francophones ont hérité d'un système éducatif qui laissait une large place aux sciences humaines, aux sciences sociales, aux droits. Cela s'est traduit par des facultés qui étaient dédiées à cela. Et en réalité, pendant longtemps, nous avons eu très peu d'écoles de formation professionnelle, formation qualifiante, formation technique, voire technologique, et notamment d'écoles d'ingénieurs. Et donc aujourd'hui, nous sommes ici à Pointe-Noire, c'est ce qu'on appelle la capitale économique, c'est notre bassin industriel le plus important, parce que c'est le bassin du pétrole. Et donc on voit ici, dans ce bassin, il y a des besoins très précis que l'université n'a pas intégrés dans ses filières. Et Lucas Kikam apparaît aujourd'hui comme une des meilleures réponses à ces besoins.
Les autres formations d'ingénieurs qui existent au Congo-Brazzaville sont plutôt réputées trop théoriques. Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de ces formations-là, des autres formations que celles de l'ICAM ?
Ce qui leur manque cruellement, c'est l'équipement. Ils en ont un peu, c'est clairement pas suffisant, parce qu'en l'absence de matériel, eh bien oui, ils vont sur Internet, ils lisent les cours, ils font des mémoires très théoriques. On vient de visiter un atelier mécanique.
Ici à l'ICAM.
On ne peut pas former un technicien ou un ingénieur s'il n'a pas les équipements sur lesquels il va faire ses premiers pas, il va comprendre la technologie. Et donc, je sais qu'une des grandes batailles, c'est d'équiper ces écoles d'ingénieurs. Mais peut-être que là aussi, le secteur privé peut aider. Justement, c'est ce que j'espère. Apporter de l'aide, de l'appui. Vous avez vu, ici, ils ont même du matériel de récupération. Ils n'ont pas besoin d'avoir le matériel flambant neuf.
Et ça veut dire que pour ces formations-là, vous attendez beaucoup du privé aussi, notamment en termes d'investissement, de matériel.
Ce qu'on voudrait vraiment, c'est être sûr que celui que l'on forme a toutes les chances d'avoir un emploi. Et donc, pour ça, il faut dialoguer avec l'employeur potentiel. Forcément, c'est leur intérêt de voir former des gens dont ils ont besoin. Ça leur permet d'économiser tous les efforts de formation interne, parce que sinon, l'alternative, c'est de faire venir des gens d'ailleurs. Ça coûte forcément plus cher. Vous faites venir un expatrié, même africain,
Eh bien, il n'est pas chez lui, vous devez lui payer des primes, d'éloignement, déplacement, ainsi de suite. Qu'un Congolais n'exigera pas, il est chez lui. Pendant longtemps, on a formé des docteurs et des docteurs, des masses et des masses. L'université Marie Ngouabi à Brazza forme chaque année 100 docteurs, 100 PhD. En même temps, 70% des chômeurs diplômés de notre pays viennent de la même université. Donc on voit bien quelque chose qui ne va pas. Je crois que l'implication du privé, désormais, est une condition du succès de la formation et de l'enseignement.
Alors, peut-on espérer une vraie réforme des formations publiques d'ingénieurs au Congo-Brazzaville, Charlie ?
Oui, par exemple, l'université Denis Sassou Nguesso est en travaux depuis 2 ans à Brazzaville. Elle devrait accueillir 2 facultés de sciences, techniques et avancées, mais aussi des écoles d'ingénieurs, des instituts dans le domaine de l'hydraulique, de la mécanique, des télécommunications, entre autres. Et puis, autre projet mentionné par le ministre, c'est celui d'une université catholique tournée vers les sciences qui devrait ouvrir à Pointe Noire, avec le soutien de Total, encore une fois, et du gouvernement.
On a entendu plusieurs étudiants dans votre reportage. Que deviennent les diplômés ingénieurs formés par l'ICAM une fois qu'ils sont sur le marché ?
Eh bien, contrairement à ce qu'on peut imaginer, tous ne travaillent pas dans le pétrole. Je vous propose de repartir à Douala, à la rencontre de Noé Bissou, lunettes, tenue jaune fluo, grand sourire, enchanté de nous guider à travers son entreprise.
Ça va les gars ? Ok. On est ici chez Bia Cameroun. Bia Cameroun, c'est une société qui fait dans la distribution d'équipements pour la construction. Donc là-dedans, tu as toute la gamme de tout ce qu'il te faut pour pouvoir faire des projets de construction, tout ce qui est route, carrière. Donc ils ont ouvert au Cameroun, ça fait déjà 3 ans.
Et c'est une société belge.
C'est une société belge, voilà. Mais sinon, le groupe en lui-même, il est réparti dans 20 de pays. Hein.
Et alors on voit ce qui a l'air d'être des tracteurs là-bas par exemple ?
Tout à fait, oui, on va y aller pour toute la gamme de matériel que je vais vous présenter. Donc au niveau de la construction, on a besoin de pouvoir faire tout ce qui est travaux de génie civil, notamment de terrassement. Donc pour le terrassement et tout, tu auras besoin de tout ce qui est bulldozer, que tu vois là, des niveleuses, des pelles et des chargeuses. Voilà.
Toutes jaunes.
Là-bas on voit un compacteur pour bien compacter le sol. Là, tu vois, tu es en train de marcher sur un sol qui n'est pas meuble. Alors, si tu veux pouvoir mettre du goudron sur un sol comme celui-ci, tu vas d'abord passer cet équipement qui va venir compacter le sol.
Ah oui, pour l'aplanir, en fait.
Pour l'aplanir au-dessus.
Et est-ce que vous menez ensuite les chantiers ou simplement
non,
vous distribuez
pas
le matériel ?
Par contre, nous distribuons le matériel et après, on va distribuer le matériel pour être sûr que le client tire le meilleur parti de son équipement. Nous, derrière, on assure le service après-vente. Et ça, c'est mon rôle. Moi, dans mes équipes, j'ai des techniciens, je vends les pièces de rechange.
Et en quoi votre formation d'ingénieur vous sert ici ?
Ma formation d'ingénieur me donne justement cette dimension transversale. Parce que quand tu dis maintenance, c'est déjà un ensemble de métiers qui vont ensemble. Dans le compacteur que tu vois, tu as tout un ensemble de technologies qui font qu'en tant qu'ingénieur, tu as besoin de cette formation pour mieux maîtriser les machines. La formation d'ingénieur généraliste, justement, c'est ce sésame-là qui te donne toute la puissance nécessaire pour pouvoir te sentir à l'aise dans le métier que tu exerces au jour le jour.
Donc là, on se promène entre les tractopelles et autres équipements.
Donc, alors ici, tu as donc l'atelier. Tu as des collaborateurs qui sont justement en train de travailler.
Sur un camion, là.
Sur un camion, voilà. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle de la préparation. Donc, une fois qu'un client a acheté son camion, nous, on fait des travaux préliminaires. Quand le client va prendre son camion, il sera parfait. Tu es obligé de faire les efforts qu'il faut, quitte à faire des journées de 12 heures, voire 14 heures. Et puis parfois, je pousse jusqu'à 21h.
Donc ça peut être de 7h30 à 21h.
De 7h30 à 21h.
Alors, ça fait combien de temps que vous travaillez ici ?
1 an et quelques mois.
Et je vais poser la question qui fâche, pour quel salaire ?
Aujourd'hui, je suis un peu au-dessus de 2 500 € par mois. c'est quand même pas rien.
Parce que vous êtes diplômé depuis 2009,
oui,
donc
depuis 9 ans. Oui, justement.
Le salaire minimum, en fait, au Cameroun, c'est de 36 000 francs CFA, tout métier confondu, à peu près.
Oui, ça, c'est le SMIG.
C'est donc 55 €. Mmh. Et pour les ingénieurs, c'est 300 000 francs CFA, le salaire minimum.
Oui, tout à fait.
Donc c'est 450 €, c'est à peu près 9 fois plus.
Oui, effectivement, c'est ça.
Mmh. Donc il y a une vraie différence quand même quand on est ingénieur ici.
Au bout de toute mon expérience, je me rends quand même compte qu'ingénieur, c'est bien. Ça te donne toute la liberté de pouvoir te mouvoir à un moment donné là où tu veux. En 9 ans, j'ai quand même déjà fait 3 entreprises. Donc. Alors j'ai commencé ma carrière dans une entreprise agricole qui fait dans la sucrerie. Donc quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir passer du client pour le distributeur, je suis passé chez le distributeur la première fois. Donc là, j'ai appris à distribuer d'autres équipements assez intéressants aussi. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de passer du distributeur, un où j'avais un certain nombre de marques et des responsabilités, pour passer chez un autre distributeur là où j'ai d'autres marques et d'autres responsabilités.
Avec un meilleur salaire à la
Avec
clé.
Un meilleur salaire. Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas faire ces trois entreprises si tu n'as pas en toi une des capacités et un bagage qui te permet à un moment donné de pouvoir te mouvoir. Et d'ailleurs, ma petite sœur à moi, elle est ICAM.
Elle est aussi à l'ICAM dans cette école.
Elle est aussi à l'ICAM, donc elle a fini le premier cycle en Pointe-Noire, elle a Douala cette année. Et mon épouse aussi est ICAM, donc tu vois que...
Elle est une femme ingénieure aussi.
Oui, tout à fait. Elle travaille dans la construction métallique. Donc tu vois que c'est vraiment des domaines différents, même formation, même moule, mais pas dans le même domaine. Moi, mon épouse, quand elle rentre à la maison avec toutes ses notes de calcul et tout, et tous ces plans qu'elle fait dans ce logiciel et tout, je regarde, j'ai une vague idée, mais je ne peux pas discuter avec elle de temps en temps. En fait, elle ne peut pas me consulter pour me demander si, par exemple, elle n'a pas fait une erreur sur sa ligne, sur sa note de calcul. Bon, tout comme elle, elle ne peut pas savoir, par exemple, à quoi sert une pompe d'injection. Et
c'est bien, ça fait deux gros salaires à la maison, du coup.
Oui, ça fait deux gros salaires à la maison, c'est plutôt intéressant.
Vous avez combien d'enfants ?
Deux magnifiques filles. Ma première fille, elle a 2 ans et ma deuxième fille, elle a 1 mois. Donc, c'est récent.
De futurs ingénieurs en puissance ?
Tout à fait.
Et est-ce que vous avez le sentiment de contribuer au développement de votre pays ?
Bon, pour l'instant, je me sens bien dans ce que je fais parce que tout grand projet, tu as besoin du matériel que tu as vu là. En fait, là, tu es au courant des grands projets, tu es sûr que là, tu participes. Souvent, quand je marche au niveau de la route, je me dis, ah, mais ça, c'est avec mes machines qu'on a refait cette partie de la route, c'est avec mes machines. Waouh, j'ai vraiment participé parce que sans mes équipes, sans mes techniciens, sans mon implication, cette route n'aurait pas pu se finaliser. Donc, on participe tous les jours au quotidien. C'est vraiment ça qui reste, hein, les routes et les constructions.
Alors, est-ce qu'on va avoir une nouvelle génération avec des filles ingénieures maintenant en Afrique ?
Alors, en tout cas, Noé Bissou a déjà recruté dans son entreprise, sous son aile, dans son département, 2 étudiantes, donc des filles diplômées de l'ICAM d'ailleurs. Il existe donc aujourd'hui des ingénieurs, hommes et femmes, formés, encore rares, avec une formation de qualité, qui travaillent dans des multinationales et qui font partie d'une classe moyenne émergente. Mais en quoi servent-ils vraiment les économies de leur pays ? Je voudrais vous donner quelques chiffres. Alors d'abord celui-là, au Congo, les ressources provenant du pétrole représentent environ 2/3 du PIB. L'économie camerounaise est, elle, plus diversifiée puisque le secteur agriculture, foresterie, pêche, par exemple, contribue à hauteur de 23% du PIB, selon la Banque africaine de développement. Et seulement 5% du PIB camerounais est directement rapporté par l'industrie extractive, essentiellement le pétrole. Alors j'ai rencontré sur ces questions le professeur Abel Ndjomo, doyen de la faculté de sciences sociales et de gestion à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun. Il est également enseignant-chercheur en économie.
Servir le pays suppose d'abord contribuer à la création de richesses. Si ces entreprises dans lesquelles ils travaillent sont a priori des entreprises qui créent de la richesse, c'est déjà un bon point. Mais l'autre aspect, c'est de savoir si leur participation aux activités des entreprises ne contribuent pas aussi d'une autre façon à enfermer ces économies dans l'aspect de l'économie de rente, tout simplement. Alors là, c'est plutôt une question individuelle. Évidemment, chacun pense d'abord, qu'on le veuille ou pas, à sa carrière, à s'épanouir.
Surtout quand les multinationales offrent des salaires très élevés par rapport à la moyenne nationale.
Et effectivement, cela reste très alléchant. Je comprends donc que ces personnes entrent dans un système, mais alors pourront-ils participer en faire sortir leurs économies, des économies de rente comme on a, n'est-ce pas, dans notre région? Mais justement, cela rend l'économie prisonnière ou dépendante de la rente pétrolière, un système qui ne permet pas à ces économies de se développer. Il n'y a que certaines personnes qui bénéficient en fait des largesses de ces grandes entreprises. Et en général, il ne faut pas chercher loin, c'est toujours le cercle des dirigeants des différents pays. D'ailleurs, vous le savez, dans vos pays, vous avez des procès en cours contre les biens mal acquis.
En France, effectivement, le procès des biens mal acquis contre les proches de Denis Sassou Nguesso.
Sans vouloir le citer, mais il n'est pas le seul. Il y a également d'autres responsables politiques qui sont indexés. Il y a la mainmise sur les richesses nationales et évidemment, c'est un avantage pour eux d'entretenir ces économies de rente. On reste au pouvoir éternellement et en tirant des rentes de ces productions-là. Et la question encore qui se pose, c'est la transparence ou la traçabilité des flux financiers qui ressortent de ces exploitations.
Sur le chiffre d'affaires, par exemple, de ces entreprises ?
Sur le chiffre d'affaires, sur même les productions, que ce soit de pétrole, d'or, de diamants. on peut dire que c'est plutôt une sorte de cercle vicieux de la pauvreté qui est entretenu. Il n'y a pas de développement dans ce cas.
L'un des autres problèmes posés par ces économies de rente, c'est aussi qu'elles sont instables. Notamment, on l'a vu avec la chute du cours du pétrole. Par exemple, au Congo-Brazzaville, des dizaines de milliers de postes ont été supprimés. Et la croissance du Congo était en 2017 de 0,5%.
Et lorsque le secteur est en crise, évidemment, c'est toute l'économie qui se retrouve en crise.
Et alors, comment est-ce qu'on peut sortir de ces économies de rente ? Qu'ont intérêt à maintenir les grandes multinationales pour aller vers des économies diversifiées, plus saines, entre guillemets.
La diversification d'une économie ne se décrète pas.
Ça a été le cas au Congo-Brazzaville.
Mais alors, est-ce qu'on prend les mesures nécessaires ? C'est d'abord améliorer l'environnement des affaires, la libre entreprise, moyens financiers, je veux dire, le capital humain nécessaire pour entreprendre. Les petites et moyennes entreprises ont aussi leur rôle ou leur partition, on peut dire, à jouer dans l'histoire de la musique économique.
Et il faudrait idéalement que ces ingénieurs entreprennent dans des domaines importants, en fait, pour leur pays.
Les besoins au Cameroun, ça peut être par exemple production d'électricité, ça peut être que l'agroalimentaire. Il y a, à mon avis, beaucoup à faire. Et quand j'entends ingénieur, j'entends aussi génie. Et un génie, c'est quelqu'un qui est hors du commun, qui apporte à la productivité d'une économie ou encore à la création de richesses dans une économie. Et en ce sens-là, ils n'apportent pas ce que l'on attend d'eux en Afrique centrale. Est-ce que ces ingénieurs sauront être des personnes au service de leurs économies, des personnes qui aiment également leur pays, leur continent ou leurs activités en général? Sinon, les émergences qui sont proclamés ou bien qu'ils soient annoncés, jamais n'arriveront.
Sortir des économies de rente, c'est donc tout l'enjeu, Charlie Dupiot. Et c'est possible grâce aux PME, aux petites et moyennes entreprises, mais il est difficile d'accéder à des financements quand on crée son entreprise.
Et ça, puis, on en parle souvent dans l'émission.
Oui,
hein.
On le sait bien, il existe aussi une vraie lourdeur administrative qui pèse sur les entrepreneurs. Difficile aussi pour les PME de prendre des apprentis et donc de former des jeunes. Même si, par exemple, l'apprentissage est reconnu légalement au Congo-Brazzaville, il n'est pas subventionné par l'État. Bref, il y a encore beaucoup à faire en termes de formation, mais aussi de mesures politiques pour soutenir et puis pour encourager l'entrepreneuriat. Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-Noire que j'ai rencontré, il faudrait aussi idéalement mettre en contact pendant leur formation les étudiants ingénieurs et les PME, pas seulement les grandes entreprises multinationales. Selon lui, cela pourrait permettre de leur ouvrir d'autres perspectives, de leur donner le goût d'entreprendre, malgré les nombreuses barrières qui existent. Bref, tout ne peut pas reposer sur les épaules de nos ingénieurs en herbe, malgré leur volonté sincère de contribuer à développer leur pays.
C'était un reportage de Charlie Dupiot, réalisé par Romain Dubrac. Milliards de voisins, rediffusion de notre émission « La mode est-elle raciste ?» en compagnie de nos journalistes des magazines Brune, Gazelle. Où doit s'arrêter la liberté de création dans la mode ? On en reparle demain.